après que Samuel et moi avons perdu notre fille. Nous avons tant prié pour la revoir. Le contact a commencé, doucement. Elle a demandé la permission de prendre possession de la poupée. Très vite, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas notre fille. Alors nous l'avons enfermée. Nous avons pensé qu'aider les filles serait notre pénitence.
C'est notre nouvel orphelinat.
Wow, c'est immense, un vrai château.
Mais finalement, nous lui avons donné exactement ce qu'elle voulait.
As-tu besoin d'aide?
Je me débrouille. Elle s'en prend à moi. Parce que je suis la plus fragile.
Tu veux bien m'aider?
Qu'est-ce que tu veux?
Le réalisateur m'avait dit que on ferait le saut, donc j'ai pas fait le saut finalement, mais peut-être l'avez-vous fait dans la voiture, mesdames, messieurs. Deuxième partie de Mythes et complots, Christian. On va parler des chasseurs de fantômes, mais d'abord, bien sûr, Annabelle, dont on vient d'entendre la bande-annonce.
Voilà, Annabelle 2, on vient d'entendre la bande-annonce et ça m'amène à une nouvelle qui est sortie cette semaine. Annabelle 2, en fait, c'est une franchise. Il y a eu, il y a 2 ou 3 ans, le film Annabelle 1. Et il y a eu également, en parallèle à ça, des films La Conjuration 1 et La Conjuration 2. Donc, ces films, donc ces franchises, La Conjuration et Annabelle, ce sont des films qui s'inspirent de la carrière de démonologues américains bien célèbres. Démonologue, mais qui était aussi chasseur de fantômes, Ed et Lorraine Warren, qui sont probablement les chasseurs de fantômes les plus connus de la fin du 20e siècle.
Okay.
Et là, la problématique est la suivante, c'est que la compagnie, en fait, Warner Brothers, la compagnie New Line Film et James Van font actuellement l'objet d'une poursuite, et attention, de 900 millions de dollars.
Et pourquoi?
900 millions de dollars, et la poursuite a été entamée par un type qui s'appelle, j'ai ici son bouquin, Gérald Daniel Brittle, dont j'ai son ouvrage ici, The Demonologist. Et voilà, parce que ce Brittle, en 1980, a écrit ce livre, The Demonologist, qui est la vie, la carrière du couple Ed et Lorraine Warren, et il y a là-dedans certains de leurs dossiers, de leurs enquêtes, incluant l'enquête sur l'affaire d'Annabelle. Parce qu'il faut savoir que les films de Conjuring 1 et 2, Annabelle 1 et 2, tous ces films s'inspirent apparemment de faits vécus. Alors, M. Brittle, lui, il dit, voilà, c'est moi qui ai écrit The Demonologist, c'est moi qui ai les droits là-dessus, et les dossiers que je présente dans mon ouvrage, c'est également moi qui ai les droits, plus même que les Warren. Alors, inutile de dire que la compagnie de production, New Lines Production, Warner Brothers, eux disent, ben, écoutez, il s'agit d'événements vécus et personne ne peut réclamer un droit d'auteur sur un événement vécu.
Mais on ajoute quand même quelques lignes, quelques phrases dans le scénario.
Voilà, et c'est là que ça risque de faire mal. C'est que M. Brito dit, le problème, c'est que c'est pas des faits vécus, c'est des inventions. Brittle avoue publiquement que tout ce qui est dans l'ouvrage de Demonologist, tous les supposés dossiers des Warren, tout ça n'est que de l'invention.
Donc, son livre, c'est une fiction.
Voilà, il dit, on a fait cette histoire-là, on présente ces dossiers-là, ces supposées enquêtes, tout ça est de la frime.
Christian, il y a souvent justement des fictions où au début du film, on met à l'écran en blanc sur noir, inspiré de faits vécus, mais c'est faux.
Absolument. Et là, mais là, dans le cas présent, on prétend que c'est pas rien qu'inspiré, que ce sont la transposition des faits d'événements réels. Et c'est là-dessus que M. Brittle espère gagner sa poursuite contre Hollywood en disant il n'y a rien de vrai là-dedans, c'est des inventions. Et il qualifie ouvertement Ed et Lorraine Warren d'être des escrocs, des arnaqueurs.
Et parenthèse concernant les films où on a des jeunes enfants comme ça, tu sais, les enfants, c'est pur, c'est innocent, c'est nouveau. C'est beau. Et là, tu t'y attends pas. Esprit maléfique. Sincèrement, avec moi, ça marche. Je n'écoute pas, je regarde pas les films d'horreur avant de me coucher. Et surtout, quand il y a des enfants, j'ai vraiment peur.
Moi, j'étais un assez bon public.
C'est vulnérable. Puis là...
Moi, j'étais un bon public pour ces films-là. Écoute,
Le cercle.
Je les ai tous vu, écoute. Mais tout ça, bref, pour te dire que c'est la poursuite de 900 millions et ce Brittle, maintenant, accuse les Warren d'avoir falsifié leurs histoires, d'avoir tout inventé, en fait, de A à Z. Et ça nous amène à parler de notre sujet de cette deuxième heure, ces fameux chasseurs de fantômes.
Absolument. Et on vous demande, est-ce que vous avez déjà fait affaire avec des chasseurs de fantômes? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Vous pouvez répondre également sur Mythe au pluriel à cogecomedia.com. Je veux qu'on éclaircissent les choses concernant ces chasseurs de fantômes. Qu'est-ce que c'est, un chasseur de fantômes?
Pas seulement ceux qui ont fait appel à des chasseurs de fantômes. Je sais que les chasseurs de fantômes organisent régulièrement des visites de lieux hantés et demandent à des gens de les accompagner en échange de quelques billets verts. Alors, si vous avez accompagné des groupes de chasseurs de fantômes, on est intéressé de savoir comment ça se passe. Donc, vous avez les numéros de nous joindre. Écoute, Jeff, il faut savoir que les chasseurs de fantômes, ce n'est pas un métier, c'est une activité, disons-le bien. C'est une activité qui remonte, en fait, à la fin du 18e siècle. À ce moment-là, il y avait toutes sortes, ça a été l'âge d'or, un peu du spiritisme, il y avait toutes sortes de phénomènes qui se produisaient. Et c'est également l'avènement des sciences. On commence à développer une approche scientifique rigoureuse et on essaie de documenter ces phénomènes. Et l'un des tout premiers chasseurs de fantômes apparaît aux alentours des années 30 en Angleterre, un type qui s'appelle Harry Price. Il va se donner d'ailleurs le titre lui-même de « Je suis un chasseur de fantômes ». C'est probablement le premier qui va utiliser cette expression de chasseur de fantômes. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la chasse aux fantômes était relativement, disons, modeste. On plaçait sur le sol, par exemple, de la poudre de talc, la poudre pour bébé, on en étendait sur le sol. On se disait que si le fantôme venait, il laisserait des empreintes dans la poudre à bébé. Et on mettait des fils avec des petites clochettes en se disant, si le fantôme y passe, peut-être qu'il va faire bouger des petites clochettes. Donc, tu vois, c'était relativement... L'outillage était plutôt modeste. Et ça va d'ailleurs demeurer à peu près comme ça parce que, honnêtement, objectivement, il n'y a aucune référence scientifique qui permet de déterminer, un, ce que sont les fantômes, s'ils existent, et quelle est leur influence sur l'environnement. Donc, on le dit là, haut et fort, si un chasseur de fantômes vous dit que les fantômes perturbent les champs électromagnétiques, font des changements dans l'électricité, la température, ça ne repose sur aucune documentation rigoureuse.
Donc, c'est basé sur rien. Puis aujourd'hui, je propose qu'on réfute leurs arguments et qu'on explore les outils qu'ils utilisent aujourd'hui.
Et en fait, Jeff, quand tu dis ça ne repose sur rien, c'est faux. Ça repose sur une chose, et on le fait entendre en début d'émission, ça repose sur Ghostbusters. Quand le film... absolument. En 1984... Quand Ivan Reitman a décidé de faire Ghostbusters, il s'est tourné vers les milieux de la parapsychologie et il leur a posé la question « Comment vous chassez les fantômes? » Et à ce moment-là, les gens qui s'intéressaient à ça, les parapsychologues ont dit « Écoutez, on met de la poudre de talc, on met des petites fils, des fils avec des clochettes. Et qu'est-ce qu'on attend qu'il arrive? » En fait, l'outil principal était la caméra vidéo. On espérait capter des images qui montreraient un phénomène paranormal. Parce que, et je le répète, les histoires de fantômes qui perturbent les champs magnétiques, la chaleur, les cils, c'est de la foutaise. Mais tu comprends qu'Ivan Reitman s'est dit « Écoute, jouez mal mes chasseurs de fantômes avec des clochettes, puis des petits fils, puis brandissant des pots de poudre à bébé. » Il s'est dit, moi, les inventer des gadgets.
Des balayeuses.
Et là, on a inventé toute une panoplie, une quincaillerie de gadgets qui reposait sur rien, là. C'était pour les besoins du film. Et étonnamment, et ce n'est pas la seule fois que ça se produit dans l'univers du paranormal, le cinéma va transpirer dans la réalité. Donc, peu à peu, on va voir des groupes de chasseurs s'organiser et se mettre à sortir des appareils, une quincaillerie, mais complètement loufoque. Je t'ai amené ici un appareil, l'outil favori des chasseurs de fantômes, cet appareil, il leur donne un nom tout à fait exotique, un K2. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un détecteur de champs magnétiques. Si tu pars ça puis tu promènes ça autour de toi, éventuellement, ça va se mettre à sonner. Et sais-tu ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a une perturbation magnétique autour de toi. Ça peut être ton écran d'ordinateur.
Ce qui est constant,
ça peut être ton écran d'ordinateur, ça peut être ton portable, mais eux interprètent ça comme une présence d'entité. J'ai même vu un chasseur de fantômes dire que ça, c'était un détecteur d'entité. Et pourtant, c'est dans la trousse de tout bon électricien, un détecteur de champs magnétiques. Donc, c'est une multiplication d'appareils comme ça. On lui donne toutes sortes de noms. Mais ces appareils existent pour de vrai. Ces appareils donnent de véritables lectures. Hein? Ils détectent quelque chose, mais ils ne détectent rien qui est associé au fantôme. Au mieux, ils détectent un changement de température, ils détectent une perturbation magnétique, mais de prétendre que la perturbation magnétique ou que la perturbation de température égale une entité, c'est de la foutaise. Et en science, quand un appareil ne fournit aucune information qualitative sur l'objet de la recherche, il ne vaut rien. Alors, au moment où on se parle, Jeffrey, tous les chasseurs de fantômes du Québec qui nous écoutent devraient ouvrir leurs poubelles et y jeter leur K2 dedans.
Absolument.
Mais ils ne le feront pas parce que c'est divertissant. Ça fait de la musique,
et surtout,
ça sonne.
Surtout, Christian, ça génère des revenus.
Oh!
Alors, on a affaire à des arnaqueurs et il faut faire attention. Et France, dans un instant, va nous raconter son expérience avec les chasseurs de fantômes. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Avez-vous déjà fait affaire avec un chasseur de fantômes? On revient dans un instant sur le réseau Cogeco. En plein cœur d'un spécial sur les fantômes, dans un instant, on va s'entretenir avec France qui va nous raconter son expérience avec les chasseurs de fantômes. On va également parler à Danny Plouffe, qui est docteur en physique et chercheur à McGill, qui a décortiqué, en fait, qui a essayé les outils qu'utilisent les chasseurs de fantômes. On a fait un test, dit que ça marche pas. On va lui parler dans un instant. Et Christian, je veux qu'on vienne un peu là, sur les chasseurs de fantômes. Avant la pause, j'indiquais que c'est probablement des arnaqueurs.
Ouais. Il faut quand même faire une sorte de... mettre un bémol. C'est-à-dire que les chasseurs de fantômes, pour beaucoup, c'est une activité ludique. Hein? Au Québec, par exemple, avant l'avènement d'émissions comme Ghost Hunter, les chasseurs de fantômes qui étaient présentés à la télévision québécoise, il n'y avait aucun groupe de chasseurs de fantômes au Québec. Et avec l'avènement de ces émissions, on voit ces émissions, c'est des sortes de télé-réalités. Beaucoup de gens au Québec se sont dit, wow, je pourrais faire ça moi aussi. Il suffit d'aller sur Internet pour pouvoir s'acheter un kit de chasseurs de fantômes. Ça oscille entre 20 $ et 500 $.
Voilà. Donc là, quand tu dis ludique, à ce moment-là, ce n'est pas malicieux. C'est comme jouer le rôle, personnifier un chasseur de fantômes.
Voilà. Et c'est exactement là la nuance. C'est-à-dire qu'il y a des gens au Québec, moi j'en ai rencontré des gens qui disent « Écoute, on ne sait pas si c'est vrai, je ne sais pas si ça existe, mais on s'amuse. On vole le soir faire des trucs, des espèces d'enquêtes et on s'amuse. »
Ne génère pas de revenus avec
ça. Ne génère pas de revenus. Puis la problématique, c'est lorsque, et malheureusement, et là ça devient vicieux, il y a des gens, crois-le ou non, là, il y a des gens au Québec, quelques groupes de chasseurs de fantômes qui font leur promotion en disant nous avons une approche scientifique. Nous sommes reconnus par des autorités scientifiques. Et là, ils s'habillent du manteau de la science. Ils utilisent des équipements pour faire à croire que ce sont des scientifiques. Mais entendons-nous, Jeff.
Toutes les caractéristiques
de
l'arnaqueur.
Voilà, exact. Et ce n'est pas parce que tu donnes une calculatrice à un chimpanzé que tu vas en faire un mathématicien. Alors, ce n'est pas parce que des chasseurs de fantômes ont toutes sortes de bébelles avec des noms exotiques, le Ghost-Si, le Ghost Ghost Box, le Ghost Light, le Ghost Geo, machin, ça ne veut pas dire que c'est sérieux pour autant. Et quand ces gens-là se réclament de la science, méfiez-vous. Je n'ai jamais vu aucun scientifique, ni au Québec, ni même à travers le monde, cautionner les activités d'un quelconque groupe de chasseurs de fantômes.
Parfait.
Aucun.
On va parler avec France, qui a vécu toutes sortes de péripéties avec des chasseurs de fantômes. Bonjour, France.
Bonjour.
France, vous vous êtes fait proposer des plans, des outils. Bref, on a peut-être abusé de vous.
Énormément. Pour 1210 $ en l'espace de un mois et demi.
Et d'abord, juste pour expliquer là, d'entrée de jeu, quel était le problème? Pourquoi avez-vous fait appel à des chasseurs de fantômes?
Moi, c'est arrivé tout bonnement sur ma page Facebook. C'est peut-être un ami qui les suivait déjà, qui m'ont envoyé leur lien pour que juste par curiosité, pour que j'aille voir. C'est ce que j'ai fait parce que ces gens-là font un live une fois semaine.
Okay.
Et puis, je suis allée voir, puis j'ai trouvé ça... comment je dirais...
intéressant.
Quand tu loues un film vidéo...
On
là, c'est... ça piquait un petit peu ma curiosité. Je trouvais ça rigolo. Là.
Okay.
Et puis, par la suite, le lendemain de mon écoute de leur live, j'avais un autre post sur mon Facebook, mais qui venait directement de eux. Et puis, ils invitaient des gens pour une expérience en leur compagnie qui ferait une enquête.
OK.
Et ça a débuté comme ça.
Mais
j'ai été sélectionné, comme on dit.
OK. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, l'histoire a dégénéré.
Dégénéré, vous dites, écoutez, je me sens tellement mal parce que j'ai voulu à un moment donné, puis même encore j'y pense, de porter plainte aux policiers.
Mm-hmm.
Parce que on dirait que je me suis fait avoir comme une dame qui a 85 ans, là, qui
s'est
fait avoir à se faire arnaquer par des fraudeurs.
OK.
Et je me sens victime comme ça. Je suis gênée d'en parler, mais j'en parle parce que c'est pas correct.
Mais vous êtes à la bonne tribune. Vous êtes sans jugement.
Oui, allez-y. Vous parlez de vous vous êtes fait arnaquer. Dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ils m'ont, premièrement, le premier message, une fois qu'ils m'ont dit que j'avais été acceptée, ils m'ont envoyé un message en privé pour me dire « Tu es acceptée, donne-nous ton adresse, on va aller te rencontrer. » Et puis, ça disait exactement dans le courrier, le message qu'ils m'ont envoyé, je le lis ici, là, « Les lieux doivent rester confidentiels. On prend pas de chèque, juste du cash. » Déjà là, j'aurais dû allumer, mais je l'ai pas.
Ouais.
Ils sont venus chez moi. Bon, j'ai payé le montant qu'ils me réclamaient. Puis, c'est pas 20 $ là. On parle de centaines de dollars.
OK.
Et puis, bon, j'ai dit, OK, je vais aller avec vous. Mais je suis allée. J'ai fait une première enquête avec ces gens-là. Et puis, il n'y a rien qui s'est passé là. Mais j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Puis, bon, tu dis, tu vas faire ça une fois dans ta vie. Et puis là, peut-être, mon Dieu, 2-3 jours après, ils m'ont relancé, ils m'ont dit, on fait une deuxième enquête. Là, c'est super intéressant. Puis ça, je parle de ça. Ma première enquête avec eux, regardez-moi, la première chose sur Facebook, le premier contact avec eux, c'est le 3 décembre.
Oui.
Déjà, le 9 mars, je faisais ma première enquête. Puis le 22 mars, je faisais ma deuxième enquête avec eux.
Okay.
Puis là, c'était supposé d'être fantastique parce que c'était un camp de jour pour jeunes. Et puis, il y avait un enfant qui s'est fait enlever dans la nuit. Et puis, l'enfant, ils l'ont retrouvé à quelques kilomètres, puis il était décédé.
Toutes les histoires un peu sordides qu'ils accompagnent.
On entend.
Mais vous mentionnez, on vous a arnaqué de 1000 $. Ces 1000 $-là sont passés de quelle façon?
Oui. Après ma deuxième enquête, ils m'ont vendu une espèce d'écouteur, des gros headphones que tu mets sur la tête avec une boîte, ils appellent ça un Phantom Box, boîte de fantôme.
On écoute la boîte de fantôme.
Ben oui, avec une lumière qui est dessus. Avec une caméra pour filmer à l'infrarouge.
Et France, combien coûtaient les écouteurs en question? Oui, pour situer les gens, on a vu des photos, là, c'est des écouteurs comme des écouteurs de radio.
Ouais.
Ils en vendent au magasin du Dollarama.
Donc, à peu près quoi, 500$ pour la seule paire d'écouteurs?
Oh non! Ben, pour les quatre choses qu'ils m'ont vendues, là, c'était 800$, mais ils me disaient que c'était une valeur d'environ 5000.
Aberration. Et là, France, vous n'avez pas porté plainte?
Non.
Est-ce que vous comptez le faire? Comptez-vous le faire?
Écoutez, je suis une personne qui est excessivement malade.
OK.
J'ai un cancer et puis, d'autant plus, il n'y a pas juste le 800, il y a le 160$ qu'ils me doivent parce que je devais faire une autre enquête avec eux qui m'ont promis depuis le 25 mars. Et depuis ce temps-là, ils m'envoient des messages en privé. Tu sais, dans deux semaines, ils ont toujours une excuse. Mmh.
France, je sais que ça prend beaucoup d'énergie pour porter plainte. Alors, peut-être pas vous aventurer là-dedans, mais un appel, un simple appel, juste pour les mettre un peu mal à l'aise. Appelez donc Revenu Québec pour dénoncer ces gens-là.
Oui, mais ce que je me suis fait dire, j'ai vérifié un peu sur Internet leur statut, puis tout ça. Puis apparemment, parce qu'ils étaient enregistrés ou je sais pas trop quoi, et puis ça a été fermé.
Oui, mais en tout cas, François, ils vous ont pas chargé de taxes, là, ils n'ont pas fait de facture en bonne et due forme.
Ben, exactement.
Ben, merci beaucoup d'avoir appelé, France. Je pense que c'est éloquent. Restez à l'écoute. On aura
notre
prochaine invité. Oui, c'est courageux de vous avoir confié ça. On aura sur très bientôt avec nous Danny Plouffe, qui est physicien et qui va justement nous parler de ses ghost lights, ghost box et tout le reste. Écoute, l'anecdote de France me fait penser à une autre anecdote. Et c'est souvent ça le problème, c'est que les gens qui s'associent comme ça avec... Et on le dit bien, là, ce sont pas tous les chasseurs de fantômes qui sont des escrocs.
Mais on s'entend, Christian, que ceux-là, c'est des malicieux, c'est des gens mal intentionnés qui ont profité d'une personne qui souffre et qui est dans un état de vulnérabilité.
Un coup qu'on a mis le grappin dessus, qu'on pouvait l'exploiter, on l'a fait.
Voilà.
Écoute, il y a une dame également, une fois, qui me contacte pour me dire, écoutez, elle fait appel à un groupe de chasseurs de fantômes, ils se présentent chez eux, et rapidement, ils lui disent, vous avez une entité, mais malheureusement, on n'a pas l'équipement nécessaire pour chasser la dite entité. Faudrait ou construire l'appareil ou le faire venir des États-Unis. Mais ça coûterait 300$. La pauvre dame ouvre son portefeuille, donne 300$, bien sûr, en liquide, pas de reçu. Et bien sûr, t'auras compris que les chasseurs de fantômes sont devenus aussi invisibles après coup que les fantômes eux-mêmes.
Dans un instant, on va décortiquer avec Danny Plouffe, qui est docteur en physique à McGill, les outils utilisés par les appareils de fantômes. C'est un spécialiste aussi en ce qui concerne le cerveau humain. Alors, on va lui poser des questions par rapport à ces manifestations que certains pensent être victimes. Vous écoutez Mythes et complots. On revient dans un instant. 514-790-9850 1-866-790-9850. 15h32 dans ce spécial fantôme, Christian. On va rejoindre au bout du fil Danny Plouffe, qui est docteur en physique, chercheur à l'Université McGill, qui a expérimenté les outils utilisés, les pseudo-outils utilisés par les chasseurs de fantômes. Bonjour, Monsieur Plouffe.
Oui, bonjour.
Bonjour, Danny.
Bien?
Oui. Alors, je ne sais pas si tu as entendu notre dernier appel. C'est une dame qui a déboursé près de 1 000 $ pour acheter des ghost lights, des ghost box, des ghost quelque chose. Et là, on se pose la question, est-ce que c'était un bon investissement?
Ben, c'est pas un investissement que moi j'aurais fait. Bien que j'ai des instruments qui m'ont été donnés chez moi, des instruments qui sont supposément des instruments de chasseurs de fantômes.
OK.
Ou d'électriciens, tout dépendant
à qui on parle. Oui, à qui on parle, oui, effectivement. Alors, je sais que tu as expérimenté ces appareils-là. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette quincaillerie qu'utilisent les chasseurs de fantômes?
Bien, c'est des instruments traditionnels qui sont utilisés dans d'autres domaines, comme des détecteurs de mouvement, par exemple, qu'on va mettre dans nos maisons, les détecteurs d'ondes électromagnétiques, de rayonnement électromagnétique qui vont être utilisés par des électriciens pour voir c'est quoi les anomalies dans le système électrique. Mm-hmm. On a des radios aussi, il y a des gens qui vont créer des radios aussi, des appareils photo. Donc, c'est tous des instruments qui sont utilisés traditionnellement pour d'autres fonctions, pour détecter des phénomènes physiques.
Donc, à partir du moment où je détecte un phénomène physique, si je comprends bien, c'est que ces appareils-là, ils existent. Ces appareils-là donnent de véritables lectures. En fait, la problématique ici, c'est que les chasseurs de fantômes font un raccourci en interprétant les données ou les lectures de ces appareils.
Oui, c'est ça. C'est juste que c'est des phénomènes physiques. Moi, à chaque fois que j'ai vu l'utilisation de ces instruments-là, la seule chose que j'ai vu, c'est des phénomènes physiques naturels.
Mm-hmm.
C'est des choses qui... Tu sais, par exemple, autrefois, quand on voyait une éclipse solaire, récemment, on voyait une éclipse solaire, ben, on associait ça à un phénomène surnaturel parce qu'on comprenait pas qu'est-ce qui se passait.
Oui.
Ben, c'est un peu la même chose. En tout cas, moi, quand je vois des chasseurs de fantômes interprétés, indépendamment de leurs intentions, tu sais, qu'il y ait des bonnes intentions ou des moins bonnes intentions, peu importe leur intention, c'est qu'à chaque fois que je vois, c'est des phénomènes physiques normaux qui doivent survenir, qui vont survenir normalement et qui sont détectés à ce moment-là, puis qui interprètent. Ou sinon, j'ai déjà vu aussi de la tricherie, de l'arnaque, comme des missions à Ghost Hunter, des missions américaines.
Oui.
Eux, ils trafiquaient leurs données. Des fois, c'était évident. Là. Par exemple, il y a une fois qu'ils tenaient le bouton d'un instrument pour le faire allumer par eux-mêmes, par exemple. Okay. Puis ils disaient que c'est un fantôme.
Ouais. Et si des gens voulaient se lancer demain matin dans la traque aux revenants, est-ce qu'il y a des appareils, selon toi, qui seraient plus valables d'utiliser que d'autres?
C'est une très bonne question. Moi, si j'allais faire de la chasse aux fantômes, je pense que j'amènerais tout simplement des caméras.
Mm-hmm.
Des caméras pour filmer qu'est-ce qui se passe à différents endroits. Je pense que c'est le seul instrument que j'amènerais parce que le reste, il n'y a aucune raison de croire que les les fantômes, par exemple, émettent des rayonnements électromagnétiques qui n'ont aucun fondement. Pourquoi qu'ils se comporteraient comme des charges qui bougent, par exemple?
Oui, voilà. Mais en fait,
pourquoi qu'ils se comporteraient de cette façon-là? Ça n'a aucun... Physiquement, ça n'a pas de... Ça a pas de sens.
Ouais, et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est en entrée de jeu, c'est un peu ce que je mentionnais, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, cette croyance que les fantômes produisent des transferts électromagnétiques, des changements de température, tout ça relève d'une littérature ou d'anecdotes, mais ça ne repose sur absolument rien. Et c'est amusant ce que tu mentionnes également parce que jusqu'à l'avènement du film Ghostbusters en 1982, les chasseurs de fantômes, on se rappelle, les années 70, c'était l'âge d'or un peu de la parapsychologie. Il y avait plusieurs universités qui avait des départements de recherche en parapsychologie. Je me rappelle, par exemple, l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, avait son propre département. Et quand ils allaient chasser des fantômes, entre guillemets, ils y allaient avec une bonne caméra.
Oui, ben c'est la seule chose. Puis même là, c'est le problème, c'est que on est comme pris un peu au piège. Là. Que les fantômes existent ou non, c'est comment est-ce qu'ils se manifestent. Puis comment est-ce qu'on fait pour savoir comment ils se manifestent sans savoir d'abord qu'est-ce qu'ils sont.
Okay. Et justement,
on est comme pris à pas pouvoir vraiment les détecter. Parce qu'en fait, tous les phénomènes fantômes là, qui peuvent être décrits, là, tous les phénomènes, c'est toujours des phénomènes physiques.
Mm-hmm. Et justement, revenons à ceux qui se disent victimes de manifestations, M. Plouffe. Vous vous intéressez à la question du cerveau. Ma question, est-ce que la peur peut générer, peut provoquer chez ces gens-là une hallucination?
Ben, c'est sûr que les hallucinations existent. Sauf que la question, c'est quand on regarde un témoignage individuellement, on peut pas savoir c'est quoi la cause. Mm-hmm. Parce que quand on regarde une personne, un individu qui fait une affirmation, ça se pourrait que ce soit vrai. Ça se pourrait que la personne ait vraiment vu un fantôme, mais on ne sait pas. On peut pas le savoir. On peut pas se baser en science. On peut jamais se baser sur une anecdote.
Okay.
Sur le témoignage d'une personne, c'est jamais valide pour essayer de démontrer l'existence de quelque chose. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, la personne fait une affirmation. Ben, peu importe c'est quoi sa nature, qu'elle a vu, je sais pas, un tel phénomène physique qu'on n'a jamais observé avant, ben, il faut tester. Il faut tester en laboratoire. Il faut avoir une façon de tester indépendamment la personne qui fait l'affirmation. Puis souvent, avec les anecdotes, c'est pas possible. Donc, on est pris que ce soit vrai ou non, là. Tu sais, ça pourrait être 100% vrai que la personne a vraiment vu des fantômes. Si on n'est pas capable de tester, ben, on peut pas dire que c'est vrai.
Okay.
On peut pas dire que c'est faux nécessairement, mais on peut pas dire que c'est vrai parce qu'il y a toutes sortes de, ben, justement, des hallucinations. Des mauvaises interprétations. Regardez, allez voir un spectacle de magie.
Oui.
Hein? Quand vous allez voir un spectacle de magie, demandez à quelqu'un de raconter qu'est-ce qui s'est passé. Puis vous allez regarder de nouveau le truc de magie, puis des fois, ça correspondra pas. Il n'y aura pas une correspondance entre ce que la personne décrit du tour et ce qui s'est vraiment passé.
C'est sûr que...
Tendance à interpréter incorrectement les...
Si le spectateur nous dit qu'il a vu le magicien couper la dame en deux, ça ne veut pas dire que la dame a été coupée en deux pour de vrai.
Exactement. Donc, notre cerveau, il n'est pas là, c'est pas une caméra parfaite qui enregistre tout en détail puis qui est capable d'interpréter parfaitement. Notre cerveau, il remplit, comme on dit, des trous.
Okay.
Dans l'information qu'on a, comme il fait avec les magiciens. Fait que quand une personne fait un témoignage, c'est pour ça qu'on peut pas se fier là-dessus, tout simplement. Indépendamment, encore une fois, c'est indépendamment si la personne a raison. Donc, même si c'est la personne en qui j'ai plus confiance au monde, si la personne me raconte un phénomène, ben, je peux pas déterminer si c'est vrai ou faux par le témoignage. Du moins, en science, quand on a une approche rigoureuse et scientifique, on peut pas.
OK. Et les appareils qu'utilisent les chasseurs de fantômes ne permettent pas de franchir cette étape-là?
Ben, en fait, comme je dis, c'est que c'est des phénomènes physiques normaux. C'est juste des phénomènes physiques normaux. Fait que pourquoi est-ce qu'un phénomène physique normal
serait l'œuvre d'un fantôme?
Oui. c'est qu'il n'y a rien. Tu sais, qu'on nomme un phénomène qui n'est pas un phénomène physique normal qui peut arriver autrement.
OK.
Puis, ce qui arrive, c'est que, par exemple, les chasseurs de fantômes n'ont pas beaucoup de mesures de contrôle. Par exemple, tu sais, les détecteurs d'ondes électromagnétiques, donc les codeurs, par exemple.
Oui.
Ces instruments-là qui détectent le rayonnement, ben on pourrait bloquer tout rayonnement externe.
Oui.
On pourrait bâtir une cage qui ressemblerait à ce qu'on appelle une cage de Faraday. Je ne vais pas aller trop en détail, mais un peu comme son micro-ondes. Le micro-ondes est blindé contre les radiations. Donc, les radiations ne peuvent pas sortir ou très peu. On pourrait construire quelque chose de similaire pour les ondes électromagnétiques avoisinantes. Puis ça fait en sorte que si un fantôme peut vraiment émettre du rayonnement électromagnétique proche d'instruments, ben, il traverserait la cage, par exemple, et ça ferait en sorte qu'il serait capable d'émettre son rayonnement, puis l'instrument pourrait le détecter. Ben, ça, c'est le genre de truc que les chasseurs de fantômes ne feront pas. C'est au moins. Au moins, ça serait une étape de plus, parce que c'est pas possible qu'un champ électromagnétique, qu'une onde électromagnétique submerge d'un point quelconque dans l'espace.
Oui.
Donc, déjà là, ce serait quelque chose qui serait impressionnant. T'sais, on ne pourrait pas conclure que c'est des fantômes, mais au moins, on pourrait dire qu'il y a une anomalie.
Ouais.
Monsieur... C'est pas un phénomène physique naturel.
Monsieur Plouffe, ouais. Docteur en physique et chercheur à l'Université McGill, merci beaucoup.
Merci de, ces explications, Danny.
Merci beaucoup.
OK.
Christian, on a, avant d'aller à la pause, deux anecdotes.
Ouais.
Une anecdote chacune concernant ce qui pourrait toucher...
Les fantômes.
Au sujet d'aujourd'hui.
Ouais.
Je vais commencer avec la mienne.
Vas-y.
Juste te dire ceci. Je crois pas aux fantômes.
Vas-y, mon Dieu.
Je crois pas aux fantômes, oui. Mais je vais admettre en ondes, mesdames, messieurs, parfois, lorsque ma blonde n'est pas là, dans le lit à côté de moi, elle est chez elle, par exemple, lorsque je suis seul et que arrive 3h du matin, je me réveille pour aller faire pipi.
Ouais.
Ça vous arrive sûrement, c'est un phénomène...
3h du matin, l'heure du diable!
Alors, tu sais, il fait complètement noir. Je dors dans la noirceur, j'aime ça, j'ai pas peur du noir, mais à 3h du matin, parfois, je vais t'avouer une chose, je laisse la lumière de la salle de bain ouverte pour créer une lueur, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être peur de... À ce moment-là, pas de phénomène ou quoi que ce soit, pas d'une infraction, d'entrée par effraction, juste pour me rassurer. Mm-hmm. Alors, je vais admettre ceci. Donc, la peur, quand même, est au centre de la discussion d'aujourd'hui. La peur, à mon avis, peut amener les gens à penser certaines choses, à voir des phénomènes paranormaux.
Moi, tu veux, je te raconte une anecdote de fantôme.
Absolument.
Et quand on parlait tantôt de biais cognitifs, l'une parmi les nombreuses expériences qui ont été faites, on montre bien que le cerveau, à partir du moment où on crée une attente, le cerveau peut éventuellement donner vie à cette attente. Et l'anecdote que je te raconte, c'est produite il y a quelques années. Je me trouvais en Floride avec des amis. On tournait un documentaire pour Canal D, Dossier Mystère, et on visitait une maison hantée. En fait, c'était une grande maison de ferme qui avait été transformée en musée. Donc, je me retrouve là. La curatrice du musée me fait faire le tour.
Oui.
Et puis, une fois qu'elle m'a expliqué un peu les airs de la maison, elle me raconte que l'endroit est hanté par le fantôme d'une fillette de 3 ans qui est décédée dans la maison à l'époque où c'était une maison de ferme. Et elle me dit que depuis, il y a des manifestations étranges qui se produisent. Et curieusement, il y a au premier étage une pièce qui a été aménagée comme une chambre du 19e siècle. Et elle me montre 2 poupées en porcelaine dans un berceau. Et elle me dit, c'est surtout lorsque les gens, les visiteurs, touchent ces poupées que les manifestations se déclenchent. Ces poupées n'étaient pas les jouets de la petite Jessie Mae Saxon, décédée dans la maison. Mais c'est comme si de l'au-delà, la fillette avait adopté ses jouets comme étant les siens. Donc, un coup que j'ai fait le tour du propriétaire, la dame me donne les clés. Elle me dit, faites votre reportage et quand vous aurez fini, ramenez les clés à l'hôtel de ville. Merci, bonsoir. Alors, dès qu'elle a tourné les talons, je remonte au premier étage, je prends les 2 poupées, je les secoue de tous les bords, tous les côtés, en implorant les esprits de se manifester. Absolument rien. Alors, éventuellement, je remets les poupées au berceau, je monte au grenier où mon caméraman, que je salue, Richard Laniel, qui est peut-être à l'écoute cet après-midi. Donc, Richard Laniel est là à prendre des images et il est dos à moi. Et au moment où je suis en train de regarder vers une alcôve, je sens très distinctement, Jeff, une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras.
Froide? Est-ce que c'était froid?
Je pourrais pas te dire, mais c'était, je sentis doigt par doigt se refermer sur ma peau. Et à ce moment-là, Richard Laniel, qui est derrière moi, m'entend, écoute, j'ai interpellé plusieurs mots saints. et en m'exclamant de cette manière, Richard Laniel se retourne, il me regarde, écoute, je suis blême, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, écoute, Richard, j'ai senti une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. Et là, Richard Laniel, et n'écoutant que son courage, me dit...
Lui aussi a interpellé des mots saints.
A dit, on décalisse. C'est le mot qu'il a utilisé. Et effectivement, on a mis très rapidement fin au tournage. On a emballé notre marchandise, notre matériel. Et le reportage s'est terminé abruptement.
Mais l'explication, donc, mon explication, c'est... T'as peut-être formé une certaine peur par rapport...
Une attente. Tu vois, si je n'étais pas au courant des expériences menées en laboratoire par Olaf Blanc et d'autres chercheurs dans ce domaine-là, j'aurais immédiatement conclu que j'avais été saisi par la main de la petite Jessie Mae Saxon. Mais maintenant que je sais quelles sont les recherches qui ont été menées en neurosciences, j'aurais tendance à favoriser une explication plus rationnelle en me disant j'ai bougé les poupées, j'ai créé chez moi une attente,
et oui.
Éventuellement, comme mon cerveau est une machine à créer des illusions, j'ai eu l'impression qu'une main d'enfant se refermait sur mon avant-bras.
Parfait. Merci, Christian, de cette anecdote. 15h45. Dans les prochaines minutes, on va conclure l'émission. On va donner les résultats de notre sondage Cogeco Live. Croyez-vous aux fantômes? Et vous écoutez Mythes et complots. Spécial fantôme, la conclusion après ceci. (rire) 15h48, on va parler d'un biais cognitif dans les prochaines secondes. Juste vous mentionner que sur Cogeco Live, notre question du jour, croyez-vous aux fantômes? Au début de l'émission, 75% s'était prononcé. Oui, on croit aux fantômes. Et vers la fin de l'émission, on est rendu à 65% qui ne croient pas aux fantômes, c'est-à-dire. Et donc, avec les explications de Christian, les explications du physicien Danny Plouffe, on a complètement changé le paquebot de côté. Merci d'avoir participé donc sur Cogeco Live à cette question « Croyez-vous aux fantômes? » Christian, déjà presque la conclusion.
Oui, ben écoute, on a parlé beaucoup de biais cognitifs, puis j'aimerais faire un petit jeu avec les gens. Les biais cognitifs, on en vit tous, hein? Les biais cognitifs, oui. Notre cerveau, par exemple, n'aime pas l'abstrait. Et c'est pour ça que quand on regarde des nuages, on va voir, par exemple, une figure d'animaux, etc.
On veut rationaliser tout.
L'une des techniques, une des arnaques un peu qu'utilisent les chasseurs de fantômes, c'est un phénomène qui s'appelle le PVE, hein? Le phénomène des voix électroniques. Donc, ils vont dans un endroit, ils ont un magnétophone, posent des questions. Y a-t-il un fantôme ici, là? Évidemment, ils enregistrent un bruit de fond. Ça fait chut. Puis là, à force d'écouter le chut, tu réussis à entendre quelque chose. Mais ce quelque chose-là, évidemment, il y a une attente et ces gens-là vont publier ça très souvent sur YouTube. Et là, ils te disent d'avance ce que tu dois entendre. Écoutez bien, vous allez entendre « partez ». Fait que là, tu écoutes « chut ». Puis à force d'écouter le « chut », tu vas venir que tu vas entendre « partez ». Alors là, eux sont convaincus d'avoir capté l'au-delà. En réalité, c'est une espèce, on appelle ça une pareidolie. C'est okay. Un biais cognitif. Et on va s'amuser avec nos auditeurs. On va en faire un biais cognitif.
Parfait.
J'imagine que les gens qui nous écoutent ne parlent pas le montagnais. Donc, s'ils ne parlent pas le montagnais, dans les années 80, il y avait un groupe au Québec qui s'appelait Cachetin, qui était très populaire. Mais évidemment, pour la plupart d'entre nous, ce qu'ils chantaient, c'était une espèce de charabia qui était indéchiffrable.
Avec Florent Volant.
Avec Florent Volant et Mackenzie aussi. Et on va faire entendre donc un bout de Chinano, le dernier couplet de Chinano, la dernière mesure de Chinano, et qui, pour la plupart d'entre nous, ne veut absolument rien dire. Et après, je vais vous conditionner à entendre quelque chose. Alors, on écoute Chinano.
Parfait. Là-dedans, il y a une hallucination auditive.
Voilà. Donc, je vous conditionne. Je fais comme les chasseurs de fantômes. J'ai écouté ça. Et là, je dis, j'ai entendu, je te pogne la noune. On réécoute le même extrait.
Attention, attention. Ça marche, Christian, ça marche, je l'ai entendu.
Voilà. Et ça marche pour tout le monde et tu n'écouteras plus jamais Chinano de la même façon. Donc, c'est exactement cette technique qu'utilisent les chasseurs de fantômes. Pour que les PVE, le phénomène des voix électroniques, soit valable, il faudrait qu'ils le fassent entendre à 20 personnes sans dire dans quelles conditions ça a été enregistré, sans dire quelles étaient les questions posées. Simplement faire entendre ça à n'importe qui et voir ce qu'ils en tireront. Et si là, tout le monde s'entend pour dire on entend ceci ou cela, ben là, au moins, on aura quelque chose. Mais de présenter un extrait comme celui-là en disant « Vous allez entendre ceci, écoutez bien, c'est une arnaque de bas étage, c'est de la psychologie qui est de la pop culture qu'on peut retrouver n'importe où, c'est de la psychologie à 5 sous. »
Donc, en synthèse, pourquoi les fantômes? psychologie cognitive, neurosciences. On tente de répondre aux gens qui se disent victimes de manifestations. On tente d'expliquer. Il faut bien comprendre aussi que le cerveau peut être dupé de toutes sortes de façons. Je parlais de mon exemple, 3 heures du matin, je me lève, je vais laisser la lumière entrouverte, lumière, c'est-à-dire éclairer le passage depuis la salle de bain, parce que à 3 heures du matin, pour aucune raison rationnelle, je veux être rassuré, j'ai peut-être peur. Et la peur peut générer aussi
absolument
toutes sortes de témoignages qu'on a entendus. La peur peut-elle provoquer des hallucinations? Alors, on a répondu à plusieurs questions, mais en même temps, surtout, les fantômes, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Et les chasseurs de fantômes, c'est probablement, pour la plupart d'entre eux, des arnaqueurs.
Des arnaqueurs ou des gens qui... Mais quand les gens veulent s'amuser, il n'y a pas de problème à s'amuser. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens vivent des expériences. Certaines de ces expériences, peut-être, pourraient s'expliquer par la voie des neurosciences. Ça ne veut pas dire que tout s'explique par les neurosciences. Il y a certainement encore des phénomènes qui défient notre connaissance scientifique. Mais pour l'instant, rien. Aucun appareil, aucune technique ne permet de prouver l'existence des fantômes. Si c'était aussi facile, Jeffrey, entendons-nous une seconde, si c'était aussi facile de capter des fantômes que de s'acheter une quincaillerie à 200 ou 300 $, aller dans un lieu, puis bang, c'est fait,
ouais,
la communauté scientifique serait sur le terrain. Écoute, pouvoir documenter une autre forme de vie ou d'intelligence et de conscience autre que l'humain. On ne serait pas en présence d'extraterrestres, mais on serait en présence d'extra-humains.
Ouais.
La communauté scientifique serait autour de ça. Mais non. Pourquoi il n'y a pas de scientifiques sur le terrain? Simplement parce que tout ça, toutes ces techniques-là qu'on utilise pour documenter les soi-disant apparitions ne sont rien d'autre que des leurres pour arnaquer des gens naïfs.
Et en terminant, Christian, suggestion lecture?
Ben oui, évidemment, si on parle de lecture, moi j'aurais un livre à conseiller aux gens. Si on parle en anglais, malheureusement, c'est Paranormal Pandemic. C'est un ouvrage qui est écrit par Cathy Mullally, qui se tourne vers la question des chasseurs de fantômes. Et si vous avez envie d'écouter un bon film de fantômes, quand même, j'ai quand même mes deux suggestions, mes deux classiques à moi. Un film de 1980 qui s'intitulait The Changeling avec George C. Scott. En français, c'est L'enfant du diable. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le diable. Bon, remercions les traductions. Et L'orphelin. Lina, un film le plus récent, je crois 2007-2008, à voir absolument deux excellents films de fantômes.
Et si vous êtes en famille, Casper de Friendly Ghost dans les années 90, quand même, avec le temps de l'Halloween qui s'en vient. Ça
et peut pourquoi
être
pas le remake de Ghostbuster?
Oui. As-tu vu le remake?
Non, j'ai pas vu le remake. Je suis resté accroché à l'original.
Parfait. Et Christian, rappelons ta conférence le 9 septembre sur les complots.
Les théories du complot. Voilà, mon ouvrage est sorti la semaine dernière, L'enquêteur des théories du complot. Et je vais donner une conférence à Montréal le 9 septembre prochain sur les théories du complot. Toutes les informations sont au christianpage.ca. Et voilà.
Et Conjuration 1-2, Annabelle, 1-2.
Ouais, ben pourquoi pas? On a parlé justement de les Warren, ces fameux chasseurs de fantômes. Qu'ils aient arnaqué ou non les gens qui les ont suivis, que leur histoire ait été un peu colorée, il n'en reste pas moins que les sujets sont intéressants. Et les films de Conjuring, la Conjuration 1 et 2 ou Annabelle, ce sont des bons détours pour se divertir.
Christian, merci. Voilà, c'est tout pour ce spécial Fantôme. Merci d'avoir pris part à l'émission, d'avoir participé. Merci à Catherine Huet, à la réalisation, Fred Perron, à la production. Christian Page, toujours un plaisir. On remet ça dimanche prochain, 14h. Portez-vous bien.